Biotine, l'émission de vulgarisation scientifique de Graphite.
Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. C'est Biotine, l'émission d'actualité scientifique, tous les samedis entre 12h et 13h sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net. Pour ceux qui nous écoutent sur Internet, je suis toujours, enjoué de vous retrouver, en plus avec ce nouveau générique qui nous accompagne depuis quelques semaines sur l'antenne de Graphite. Pour parler de l'actualité scientifique, nous sommes le 5 avril en 2009, c'était le lancement du satellite de communication dont le nom est imprononçable. Alors, je vais absolument pas me lancer sur la prononciation du nom de ce satellite, mais il a été lancé par la République populaire démocratique de Corée du Nord, et c'était en 2009. Même la Corée du Nord envoie des satellites maintenant. Le 5 avril 1949, c'est la naissance de l'astronaute américaine Judith Arlene Resnick. Elle est la deuxième femme américaine astronaute après Sally Ride, et la quatrième femme à être allée dans l'espace. Elle est donc née un 5 avril 1949. Elle est décédée malheureusement, morte en mission dans l'explosion de la navette Challenger, c'était en 1986. Décès le 5 avril 1967 d'Hermann Joseph Müller, généticien américain qui a posé les bases de l'étude des effets des rayonnements ionisants sur le génome. Il est lauréat du prix Nobel de médecine de 1946. Il va commencer sa carrière en étudiant les mutations chez la mouche du vinaigre, qu'on appelle la drosophile. Tous ceux qui ont fait des études de génétique connaissent cette drosophile. Et lui, il va travailler justement sur cette petite mouche. Et comme il trouvait que les mutations chez cette mouche ne se produisaient pas assez vite, eh bien Müller fut le premier à augmenter le taux de mutation par la chaleur. Alors, c'était toujours pas satisfaisant. Il a donc irradié les mouches au moyen de rayons X et il a obtenu un taux de mutation plus élevé. Et il est donc le premier à démontrer, nous sommes en 1926, que les radiations ionisantes induisent des altérations génétiques. En outre, ses expériences furent menées de manière quantitative, de sorte qu'il a pu déterminer la fréquence de mutation. C'est totalement novateur. Et nous sommes vraiment dans les années 1920-1930. En 1946, il est donc lauréat du prix Nobel de médecine pour la découverte de la génération de mutations par l'irradiation aux rayons X. Donc, Hermann Joseph Müller, généticien américain. Alors, pour les généticiens, oui, le nom de Müller est quand même assez connu, bien évidemment. Dans cette émission Biotine, eh bien, nous allons écouter un peu de musique, bien sûr, pendant cette petite heure, et puis nous allons feuilleter ensemble la revue de presse de l'actualité scientifique, une actualité scientifique qui est riche également, et puis on va aussi un petit peu parcourir des petites brèves que l'on peut trouver dans des revues scientifiques de vulgarisation, notamment Sciences et Avenir, il y a Sciences et Vie également. Ceux qui aiment l'espace, vous avez Air et Cosmos, qui est quand même assez intéressant et assez bien fourni. C'est un hebdomadaire en plus qui parle de l'actualité, notamment de l'aviation. Donc il y a pas mal de choses qui sont proposées dans ces revues. Et donc il y a des petites brèves qui sont assez intéressantes, qui abordent pas mal de sujets sans rentrer nécessairement dans des explications confuse. Par exemple, tiens, on va s'intéresser aux ours polaires qui ont des poils naturellement gras. C'est le secret de l'ours blanc pour se trouver si confortable sur la glace ou dans la neige. C'est une étude de l'université de Dublin qui montre que la peau de cette espèce d'ours sécrète un mélange de lipides et un sébum en fait qui va enrober un petit peu la fourrure, et en fait ça va agir comme un antigel. C'est un atout bien sûr crucial lorsque les températures chutent à moins 40 degrés Celsius. Et pour s'en convaincre, les chercheurs ont analysé les poils de 6 ours polaires. Ils ont comparé leur adhérence à la glace avant et après lavage, et résultat, eh bien sans son sébum, eh bien la fourrure elle gèle 3 fois plus vite, bien évidemment. Et donc ce film un petit peu lipidique, un petit peu gras, unique, eh bien, qui est composé notamment de cholestérol et d'acides gras, ça va limiter l'accumulation de givre et ça va donc protéger l'ours. Les chercheurs indiquent que leur étude confirme un savoir ancestral des Inuits qui ont appris à préparer les fourrures de façon à conserver cette propriété et permettant justement un déplacement totalement silencieux. Donc les ours polaires, ils ont un poil antigène, entre guillemets. Autre actualité qu'on peut voir dans ces brèves de Science et Avenir, cet iceberg géant à la dérive, il est long de 80 km, il est haut de 30 à 40 mètres. Cet iceberg qui s'appelle A23A, d'une superficie équivalente à la moitié de la Corse, eh bien il ne passe pas inaperçu, il a été enregistré en 1986 et il est coincé non loin des côtes australes pendant près de 40 ans. Le plus grand et le plus vieil iceberg au monde s'est libéré grâce à la fonte et au vent. Et donc, depuis l'année dernière, il poursuit son voyage le long du courant antarctique. Le problème, c'est que ce bloc de glace de 3500 km² se dirige vers la Géorgie du Sud et devrait atteindre début mars. Et donc, selon les glaciologues et les biologistes marins, l'iceberg présente une menace pour les animaux qui vivent sur l'île, déjà décimée par une épizootie de grippe aviaire depuis 2 ans. Les otaries à fourrure, les albatros, mais aussi des colonies de phoques et de manchots papous, tout ça peuple un petit peu ce petit havre de paix particulièrement hostile aux humains, donc ils sont tranquilles, l'homme n'est pas là. Et en s'échouant dans les eaux peu profondes aux abords de la Géorgie du Sud, cet iceberg bloquerait les routes entre les zones d'alimentation et de reproduction des animaux. Pour aller chasser, les manchots et les phoques devraient alors contourner le bloc de glace, mais le bloc de glace est quand même assez important, donc il faudra faire un grand détour. Donc des efforts colossaux pouvant les empêcher de subvenir aux besoins de leur nichée. Et donc les scientifiques surveillent l'avancée de l'iceberg par satellite, qu'à la force des courants rend sa trajectoire totalement imprévisible. Alors il n'est pas nécessairement susceptible de se retourner compte tenu de sa taille, il pourrait se fragmenter et ne pas atteindre l'île en un seul bloc, auquel cas il constituerait un danger cette fois pour les navires. Malgré des proportions impressionnantes, ce mur de glace n'est pas tout à fait une anomalie, les icebergs géants ne manquent pas. Le plus grand jamais enregistré au début des années 2000, qui s'appelait B15, mesure 295 km de long et il faisait 11 000 km² et puis il a fondu progressivement durant sa remontée. L'anomalie, c'est plutôt le réchauffement du continent antarctique, 2 fois plus rapide que la moyenne planétaire, ce qui peut rendre le fait d'avoir ces icebergs géants et les risques associés beaucoup plus fréquents. Donc cet iceberg géant totalement à la dérive et qui se dirige donc vers l'île de Géorgie du Sud. Ça devient une catastrophe. D'autres petites brèves assez intéressantes, ça nous vient d'une équipe de Cleveland aux États-Unis, une équipe internationale qui a identifié une mutation génétique qui expliquerait l'extraordinaire aptitude des chauves-souris à héberger une large variété de virus sans tomber malade. C'est vrai qu'on parle souvent des chauves-souris comme étant des porteurs de virus, et notamment certains qui sont assez dangereux, notamment le virus Ebola, de nombreux coronavirus également. Et donc avec d'autres facteurs génétiques, cette mutation réduit le risque d'inflammation excessive en réponse à une infection virale. Or, cette mutation, elle serait apparue chez le plus ancien ancêtre volant commun, ces mammifères, donc la chauve-souris, en réponse à l'intense activité métabolique nécessaire au vol actif. Et donc, c'est l'envol des chauves-souris qui les a rendues résistantes au virus, apparemment. En tout cas, c'est la conclusion de cette équipe de recherche internationale. Les récoltes de cacao ont été affectées par des températures ayant dépassé le seuil critique des 32 degrés Celsius pendant plus de 6 semaines en 2024, c'est au niveau de l'Afrique de l'Ouest. C'est un réchauffement qui, selon le centre de recherche Climate Central, a perturbé la photosynthèse des plants de cacao et conduit à des cabosses plus petites. Et donc, ça devient plus cher, d'où cette hausse du prix du cacao, un chocolat qui est donc menacé par le réchauffement. Ça va être très dommage pour nombreux consommateurs de chocolat. Enfin, le boom de l'autoconsommation électrique en 2024, c'est ça qui est intéressant. Il y a plus de 650 000 foyers qui étaient autoconsommateurs de leur électricité en France en 2024. Quand même un nombre assez intéressant et un nombre de, une augmentation de plus de 50% par rapport à 2023. Le coût de production du solaire photovoltaïque est de l'ordre de 13 à 19 centimes d'euros par kilowattheure, alors que en offre classique, eh bien le prix du kilowattheure avoisine aujourd'hui les 25 centimes. Donc ceux qui ont la possibilité d'avoir de bénéficier d'une autoconsommation, c'est économiquement assez intéressant. Et donc c'est l'ADEME, l'Agence de défense de l'environnement et de maîtrise de l'énergie, qui donne ces chiffres. Plus de 650 000 foyers étaient donc autoconsommateurs de l'électricité, de leur électricité l'année dernière. Et donc, c'est un chiffre qui est en constante évolution, bien évidemment. Donc voilà, c'était des petites brèves comme ça qui sont proposées dans des revues de vulgarisation scientifique. Là, c'était Science et Avenir, mais vous en avez quand même dans d'autres revues, bien évidemment. Et ça permet voilà, de balayer un petit peu différents sujets, d'avoir des informations avec une infographie que vous avez dans, dans ces revues qui sont totalement appropriées pour bien comprendre. Et c'est donc aussi tout l'intérêt de ces petites brèves, c'est voilà, de se cultiver tout simplement. C'est aussi le but de cette émission. Et aussi un peu de culture musicale, ce qui fait du bien. Allez, on écoute un petit titre et on se retrouve juste après, bien sûr toujours sur l'antenne de Graphite, pour continuer à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique.
I am one.
Jean-Noël Moreau, Biotine, sur Graphite.
Pour parler de l'actualité scientifique ensemble pendant une petite heure, tous les samedis entre 12h et 13h et les rediffusions le mardi matin à 10h. Allez, un petit cocorico quand même, qui est assez intéressant. Après 1500 heures de tests, 100 heures de vol en toutes conditions et près de 10 ans de développement, Safran vient de décrocher le Graal pour son moteur électrique dédié à l'aviation commerciale. Ce Graal, c'est celui de sa certification par l'Agence européenne de la sécurité aérienne. Ce moteur qui s'appelle Engineus 100 devient donc le tout premier moteur 100% électrique de sa catégorie à pouvoir être exploité de façon opérationnelle sur une cellule d'avion à vocation commerciale. Une première pour Safran, une première pour la France, mais aussi une première pour l'Agence européenne qui a dû inventer des normes pour ce genre de motorisation. Il a d'ailleurs fallu 4 ans à Safran et à l'organisme pour aboutir à cette certification. Elle laisse désormais présager du futur standard de l'aviation électrique au niveau mondial. Certes, il y a eu un précédent avec le petit Pipistrel Velis Electro 100% électrique, mais la motorisation de l'avion est restreinte à un usage en vol à vue pour le loisir et dans la catégorie poids plume. Rien à voir donc avec des puissants moteurs dédiés à l'industrie aéronautique commerciale. Au niveau technique, Engineus 100 intègre l'électronique de puissance et de contrôle directement dans le moteur. C'est inédit et puis c'est une force aussi puisque le moteur pourra être implanté assez facilement dans de nombreuses architectures d'avions. Il est de surcroît léger et refroidi par air. Côté puissance, pour le moment, il peut délivrer jusqu'à 125 kW au maximum avec un rapport poids-puissance de 5 kW par kilo. Mais ce n'est qu'un début car Safran débute avec un petit moteur certifié avant de développer d'autres versions plus puissantes. L'Engineus 100 servira donc de base pour répondre aux besoins d'un large éventail d'avions. Ainsi, il est possible de l'exploiter sur des avions de loisirs pour 2 à 4 passagers. Il pourra tout aussi bien être intégré à une motorisation hybride pour l'aviation de transport régional avec des appareils pouvant embarquer une vingtaine de passagers. Puis enfin, dans l'avenir, il est pratiquement prêt à équiper les futurs avions de ligne de 150 passagers qui seront également dotés d'une motorisation hybride électrique. Safran ne se contente pas de cette certification ni de ses seules ambitions. Le motoriste se prépare déjà à produire en série son moteur avec l'ouverture de 4 lignes de production à Niort dans les Deux-Sèvres et au Royaume-Uni. La première sera chargée de l'électronique de bord quand l'usine britannique produira les rotors et les stators qui sont les composants essentiels du moteur. L'objectif, en fait, c'est de faire sortir de ces usines au moins 1000 moteurs électriques par an. C'est quand même assez impressionnant. Hein. Ça fait quoi ? Ça fait 3 par jour à peu près. C'est quand même assez étonnant. Et tout ça dans un premier temps, hein, parce que Safran voit plus grand, parce que d'après l'entreprise Safran, les usines seront dimensionnées pour pouvoir culminer à 5000 unités par an. Les lignes de production seront également modulaires pour parvenir à assembler les différents modèles du moteur. Alors, il faut dire qu'avec son moteur électrique, eh bien, Safran a déjà le vent en poupe auprès des avionneurs civils, militaires et les concepteurs de drones. Ils sont déjà nombreux à avoir misé sur cet Engineus désormais certifié. Safran n'est cependant pas le seul, bien sûr, sur ce secteur. Les principaux motoristes américains planchent également sur ce type de motorisation électrique. La différence, c'est qu'ils misent directement sur des gros moteurs, contrairement à la stratégie de montée en puissance sur laquelle mise Safran, qui a commencé par un petit moteur. Les industriels chinois du secteur développent aussi des motorisations électriques pour l'aviation. Dans tous les cas, une certaine, on va dire, électricité dans l'air, dans l'industrie aéronautique, cet article de Futuration, c'est vraiment intéressant parce que on est sur une nouvelle gamme au niveau de l'aviation, on est sur une nouvelle ère, une nouvelle époque, et c'est vraiment intéressant, donc ce tout premier moteur électrique d'avion certifié, donc français. Ça faisait plaisir à l'entendre, bien sûr, la technologie se perfectionne, en tout cas dans ce domaine-là, bien évidemment. Autre chose, au niveau médecine, on pourrait avoir l'idée de pouvoir flairer les maladies. C'est une équipe de l'Institut de chimie des milieux et matériaux de Poitiers. Une équipe mène actuellement des recherches sur un procédé inédit, l'utilisation d'une molécule sonde. En fait, c'est une substance chimique qui se transforme en marqueur qu'on peut détecter en présence de cellules cancéreuses. Et donc, cette molécule sonde, elle serait capable d'émettre une odeur dès lors qu'elle entre en contact avec une tumeur. C'est quand même quelque chose d'assez troublant et aussi assez intéressant. Cette méthode repose sur l'injection d'éthanol dans l'organisme. Au contact d'éventuelles cellules tumorales, eh bien, la molécule initialement neutre se métamorphose et produit un signal olfactif perceptible dans l'haleine. On évoque parfois l'image d'un éthylotest, car un simple prélèvement respiratoire ou sanguin pourrait révéler si des cellules tumorales sont présentes. Quand même assez fascinant. Ce concept est en phase clinique 2, c'est-à-dire une étape de recherche qui évalue l'efficacité et la sûreté d'un nouveau traitement ou d'une nouvelle technologie. Et donc, on est au niveau du cancer du poumon. Et concrètement, après 7 à 8 heures, eh bien, l'échantillon traité montre si une réaction odorante a eu lieu, ce qui importe un repère précoce à la présence de cellules cancéreuses. Et donc l'espoir grandit, c'est ça qui est intéressant, parce que si ces tests confirment leur fiabilité, eh bien ce dispositif pourrait constituer une avancée décisive dans la détection précoce de nombreux cancers. L'équipe Poitvine cible dans un premier temps les tumeurs pulmonaires et les tumeurs du sein. Le gain potentiel est immense, parce que repérer rapidement une tumeur, ça offre la possibilité de la traiter avant qu'elle ne s'étende. Et donc le repérer de façon précoce, c'est totalement primordial. La rapidité d'analyse, c'est-à-dire moins d'une journée, ça représente aussi un autre atout précieux pour accélérer la prise en charge et pour limiter les examens qui sont plutôt lourds. Et donc les chercheurs ne souhaitent pas se limiter au simple repérage de la présence ou de l'absence d'une tumeur. Ils ambitionnent de caractériser le type de cancer en fonction de l'odeur qui sera émise. Quand même totalement extraordinaire. Et pour y parvenir, eh bien, les chercheurs travaillent sur différentes molécules sondes, justement, chacune susceptible de générer une empreinte olfactive distincte selon l'emplacement de la tumeur dans l'organisme. C'est quand même extraordinaire, je trouve. Ce projet, il est encore en évolution, hein, bien sûr. Il bénéficie désormais de moyens financiers supplémentaires grâce à la dotation associée à des prix également. Le prix Ruban Rose Avenir qui a été remis à ce projet. Et l'enveloppe permettra de financer du matériel de laboratoire, d'assurer la rémunération de scientifiques dédiés, de mettre en place de nouveaux essais cliniques. Même si la technologie n'est pas attendue dans les hôpitaux, dans l'immédiat, eh bien, les perspectives enthousiasment déjà le milieu médical. Cette aventure scientifique offre une nouvelle piste pour les professionnels de santé. Repérer, préciser la nature d'une tumeur par l'analyse de l'haleine ou du sang, c'est quand même totalement fascinant. Et à terme, l'objectif sera d'intégrer cette méthode à la panoplie d'outils qui existent déjà, pour un diagnostic à la fois plus complet et aussi plus rapide. Et les recherches, elles se poursuivent avec la perspective de déployer ces tests à plus grande échelle et d'orienter les soins selon l'odeur caractéristique de chaque type de cancer. Donc c'est vraiment une révolution inattendue dans la détection des cancers, avec donc cette équipe de recherche de Poitiers qui a reçu une prestigieuse récompense pour une découverte singulier, le fait de repérer la présence de cellules tumorales en identifiant des odeurs spécifiques. Totalement fascinant. Je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant, bien sûr. Allez, on écoute un petit titre pour nous remettre de nos émotions et on va continuer à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Vous êtes bien, tellement bien sur Graphite. Pop Girl, c'était Phospho sur l'antenne de Graphite. On continue sur Graphite à vous tenir informé de l'actualité scientifique dans cette émission Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet. Encore une information qui concerne le cancer dans une perspective plutôt réjouissante. Cette fois, c'est le cancer du sein. On sait que c'est la deuxième cause de mortalité par cancer chez les femmes. Environ 70% des cas sont positifs aux récepteurs, aux œstrogènes alpha, ce qui signifie que la croissance des cellules cancéreuses est stimulée par les œstrogènes. Et donc, les traitements actuels ralentissent la progression du cancer, mais ne l'éliminent pas totalement. De plus, leur administration prolongée de 5 à 10 ans s'accompagne d'effets secondaires lourds, ce qui limite un peu l'observance des patientes. Eh bien, une nouvelle molécule qui pourrait changer radicalement cette approche en offrant une action rapide et définitive après une seule injection. Les résultats ont été publiés dans la revue ACS Central Science. Cette molécule, dont je vous épargne le nom compliqué, appartient à une nouvelle classe de molécules qui vont cibler justement les cellules qui sont les récepteurs aux œstrogènes alpha via la perturbation particulière. En fait, l'idée, c'est d'entraîner un stress de la cellule assez intense et d'entraîner une mort de cette cellule de façon rapide. Donc, on va faire mourir quelque part les cellules cancéreuses, ce qui est plutôt intéressant parce qu'on va pouvoir les cibler directement. On a fait cette première recherche sur des souris et une seule injection intraveineuse de cette molécule a permis d'induire une régression complète de tumeurs de grande taille. C'est quand même assez intéressant. Et donc, contrairement au traitement classique, eh bien, le fait d'utiliser cette molécule ne se contente pas de bloquer la croissance tumorale, mais elle provoque l'élimination totale des cellules cancéreuses en quelques jours. Il y a des études complémentaires qui ont montré que l'effet de cette molécule repose sur... en fait, bon, je ne vais peut-être pas aller dans les détails, mais l'idée, c'est qu'on a fait des études complémentaires pour savoir précisément ce qu'il se passait, savoir pourquoi on arrivait à éliminer ces cellules cancéreuses, quels étaient les phénomènes qui étaient mis en cause, ou en tout cas dans le processus. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que ce mécanisme qui était mis en place était spécifique aux cellules cancéreuses, et donc ça épargne les cellules saine, ce qui pourrait donc limiter considérablement les effets secondaires du traitement. Donc, plusieurs avantages majeurs de ce traitement, une efficacité en une seule injection, contrairement aux thérapies actuelles qui exigent une administration quotidienne sur plusieurs années, une action cytotoxique et non cytostatique. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on arrive à tuer les cellules, on n'est pas uniquement dans un système de sommeil ou de dormance de la cellule, non, on arrive à les tuer. Une réduction des risques de résistance parce que l'effet rapide et puissant de cette molécule pourrait empêcher l'apparition de mutations responsables de la résistance aux traitements endocriniens. Et puis une diminution aussi des effets secondaires avec un traitement unique qui réduirait significativement les problèmes de tolérance et d'observance que l'on a avec les thérapies prolongées. Donc les résultats précliniques sont extrêmement prometteurs, on le voit, mais des essais cliniques restent nécessaires bien évidemment pour évaluer l'efficacité et l'innocuité de cette molécule chez l'homme. Et donc si ces essais confirment les observations faites sur les souris, eh bien cette molécule pourrait représenter une révolution thérapeutique pour des milliers de patientes atteintes d'un cancer du sein et qui aussi ont des problèmes de résistance au traitement conventionnel. En attendant, bien sûr, cette avancée ouvre la voie à une nouvelle approche dans la lutte contre le cancer avec des traitements plus ciblés, mieux tolérés et potentiellement plus efficaces que les stratégies actuelles. Donc c'est vraiment une avancée révolutionnaire, une seule injection qui pourrait suffire contre le cancer du sein. Alors, bien sûr, on est encore loin de la mise en pratique, bien sûr. Vous connaissez quand même très souvent ce que l'on évoque dans cette émission. Ça se fait par étapes, plusieurs étapes. Mais ce qui est intéressant, c'est que la première étape, là, est vraiment, vraiment prometteuse et intéressante, bien évidemment. Tiens, on parle de souris. On va aller au Japon. Il y a presque 2 ans, il y a une équipe japonaise qui avait déjà annoncé avoir donné naissance à des souris qui n'avaient pas de mère, mais qui avaient 2 pères biologiques. Le résultat d'une savante association de cellules prélevées sur la queue de souris mâles, traitées puis fécondées par du sperme et implantées dans des souris femelles porteuses. J'espère que vous arrivez à suivre un petit peu tout ce... comment dire, ce protocole un peu complexe qui a été mis en place. Le tout avec un taux de réussite tout de même assez faible, hein, parce que c'était à peine 1% qui fonctionnait, enfin, dans le fait où on pouvait avoir des souris qui pouvaient vivre, mais pour des souris qui pourraient vivre jusqu'à l'âge adulte et se reproduire naturellement ensuite, c'était quand même assez compliqué. Aujourd'hui, on va aller en Chine, parce que c'est une équipe chinoise qui présente dans la revue Cell Stem Cell une nouvelle manière d'arriver à cet objectif. Les chercheurs ont en effet choisi de compter sur la puissance du ciseau à ADN CRISPR. On s'en souvient, c'est une technologie qui permet, je schématise, mais ça permet de découper l'ADN des chromosomes et de pouvoir faire des recombinaisons, de pouvoir enlever ce qu'on veut enlever, de pouvoir ajouter ce qu'on veut ajouter. C'est une technologie qui avait été récompensée par le prix Nobel de chimie en 2020. On en avait parlé dans cette émission. Un outil qui ouvre la porte à des modifications de certains gènes capitaux dans le développement des souris. Alors pour bien comprendre, il est bon de rappeler d'abord que chez les mammifères, l'information génétique est portée par un exemplaire de chromosome qui vient de la mère biologique et un autre qui vient du père biologique. Il faut ensuite savoir qu'environ 200 gènes porte ce que les scientifiques appellent une empreinte parentale. Elle correspond à une modification de leur ADN qui dépend du fait que le gène soit issu du père ou de la mère. Et cette empreinte régule l'expression de ces gènes. Résultat, ces gènes s'expriment différemment selon le patient dont ils proviennent. Enfin, il faut noter que des expériences menées dans les années 80 ont confirmé que la présence dans le génome de gènes portant l'empreinte du père et d'autres portant celle de la mère biologique est indispensable au développement normal de l'embryon. Alors, les chercheurs de l'Académie chinoise des sciences de Pékin ont eu l'idée d'utiliser justement cet outil pour essayer d'éliminer le problème. Cet outil est puissant, hein, ces ciseaux génétiques, ces ciseaux ADN, c'est assez puissant, mais c'est quand même pas simple. Les chercheurs ont d'abord cultivé des cellules souches embryonnaires en laboratoire. Ils ont fécondé, c'est quand même assez complexe, ils ont fécondé un ovule sans ADN avec le sperme d'un premier mâle. Puis, ils ont mis en œuvre au cœur de ces cellules 20 modifications génétiques sur les gènes porteurs de l'empreinte parentale, connus pour être importants pour le développement de l'embryon. Et donc, ce sont ces cellules génétiquement modifiées qu'ils ont injectées avec le sperme du second mâle, cette fois, dans d'autres ovules qui étaient vidés de leur ADN. Résultat, ce sont des cellules embryonnaires qui comportent l'ADN de 2 souris mâles. C'est ça quand même fascinant. Des cellules que les chercheurs ont finalement transférées dans l'utérus de souris porteuses femelles. Et donc, ces cellules avaient donc l'ADN de 2 parents mâles. C'est quand même assez extraordinaire, assez fascinant. L'équipe rapporte qu'environ 12% des embryons ainsi formés survivent jusqu'à la naissance. Donc on a quand même des résultats beaucoup plus importants que ce qu'on en avait avant. Et que plus de la moitié des petites souris que les chercheurs ont vues naître, et un peu plus de mâles que de femelles, sont mortes avant d'atteindre l'âge adulte. Et celles qui y sont arrivées présentaient une espérance de vie réduite. Et elles se sont aussi avérées stériles. Plus globalement, elles n'étaient pas tout à fait comme les autres souris, elles étaient plus grosses, avec des malformations et même des troubles du comportement. Alors la question, c'est quel intérêt se pose Futura Science ? Eh bien, les chercheurs expliquent que ces travaux pourraient faire la lumière sur ce qui se passe derrière le phénomène d'empreinte parentale. Des études ont en effet déjà montré que des souris avec 2 mères biologiques sont plus petites et vivent, elles, plus longtemps. Ainsi, les mammifères ont-ils peut-être besoin des gènes des 2 parents de sexe opposé pour atteindre une taille saine, apparemment. Alors, si l'équipe espère désormais appliquer la méthode pour donner vie à des primates issus de 2 pères biologiques, eh bien les chercheurs soulignent qu'il serait contraire à l'éthique de mener ce type de travaux sur des cellules et des embryons humains. Modifier des gènes et produire des individus qui pourraient ne pas être en bonne santé n'est pas une option, hein, c'est ce qu'ils disent. Ok, très bien. C'est ce qui est dit officiellement. Comme je vous dis toujours, on ne sait pas ce qui se passe dans certains laboratoires. Donc il y a sûrement des essais qui ont déjà peut-être été faits. Je n'en sais rien, je n'ai pas de preuves. Mais il y a un moment où il faut peut-être être lucide. Et effectivement, la question de l'éthique, c'est malheureusement quelque chose qu'on n'évoque pas assez pour ce genre de sujet. Mais donc voilà, des scientifiques ont créé des souris nées de deux pères différents. Voilà, c'est quand même assez... Je ne sais pas ce qu'on doit en penser. Allez, on écoute une musique pour nous remettre de nos émotions.
As far as love goes, woman, you might have been the one. As far as love goes, who knows where it might have gone? As far as love goes, you say I'm an unforgiving man. Been down too many roads to pretend to understand. How far love goes, and that was before the city closed its perfumed flowers behind us. That was before we took these gritty roads to where no one would find us to wash the blood off of our hands. There's nothing more to see. Oh, woman, you're still a mystery to me. As far as love goes,
Jean-Noël Moreau.
As far as love goes, c'était Inadico sur l'antenne de Graphite. J'étais en train de rechercher quelques petits articles, pour continuer et terminer cette émission qui se finit bientôt. Déjà, ça passe tellement vite. Et je trouvais qu'il y avait quand même cette information assez intéressante. Comme on avait pas mal de sujets autour de la médecine, je voulais qu'on parle cette fois de... d'Alzheimer et de cette récente étude menée par l'université de Boston qui soulève des inquiétudes quant à l'impact de certaines boissons sur notre santé cognitive. Les chercheurs ont identifié un breuvage particulièrement nocif qui pourrait accélérer le vieillissement cérébral et augmenter le risque de développer la maladie d'Alzheimer de manière précoce. Contrairement aux idées reçues, les jus de fruits, souvent considérés comme des options saines, pourraient en réalité être préjudiciables pour notre cerveau. L'étude a été publiée dans la revue Alzheimer and Dementia, qui a suivi plus de 4000 participants âgés de plus de 30 ans. Et les résultats sont sans appel. Une consommation régulière de jus de fruits est associée à des signes inquiétants de vieillissement cérébral accéléré. Les chercheurs ont observé en fait une réduction du volume cérébral total chez les personnes qui consomment fréquemment des jus de fruits. De surcroît, leur mémoire épisodique, hein, celle qui nous permet de nous souvenir des événements personnels, eh bien, cette mémoire a été significativement altérée par rapport aux individus en consommant pas, enfin, peu ou pas du tout de jus de fruits. Et tout se passe au niveau de l'hippocampe, hein, cette structure cérébrale cruciale pour la mémoire et l'apprentissage, qui semble particulièrement vulnérable aux effets néfastes des jus de fruits. Les participants buvant quotidiennement ces boissons présentaient un hippocampe atrophié et endommagé, nous dit-on. Ce constat est d'autant plus alarmant que l'atteinte de cette région est un marqueur prédictif de la maladie d'Alzheimer précoce, définie comme survenant avant l'âge de 65 ans. Alors, les jus incriminés ne se limitent pas une seule variété, hein. Qu'il s'agisse du jus de pomme, du jus d'orange, du jus de pamplemousse, eh bien tous semblent avoir des effets délétères sur notre santé cognitive. La raison principale de cette nocivité réside dans leur teneur élevée en sucre, qui est un nutriment connu pour perturber les processus cognitifs et les marqueurs neuropsychologiques impliqués dans l'apparition de la démence. Face à ces découvertes inquiétantes, il est légitime de se demander comment protéger notre cerveau tout en profitant des bienfaits des fruits. Et donc Caroline Seguin, qui est diététicienne nutritionniste, recommande la modération. Elle dit « On peut s'autoriser un petit verre de jus de fruits par jour au petit déjeuner idéalement à condition que ce soit un 100% pur jus, donc sans sucre ajouté, ni eau, ni additif, ou alors une orange pressée », dit-elle. Alors, on peut remarquer aussi qu'il y a d'autres boissons qui peuvent avoir des effets bénéfiques, cette fois sur notre santé cérébrale. Le thé vert et certaines infusions, par exemple, sont riches en antioxydants qui protègent notre système cérébral. Ces alternatives saines peuvent être intégrées à notre alimentation quotidienne pour soutenir nos fonctions cognitives. Alors, cette étude nous rappelle l'importance d'une alimentation équilibrée et réfléchie pour préserver notre santé cognitive à long terme. Plutôt que de bannir complètement les jus de fruits, il est préférable d'adopter une approche un peu mesurée et de privilégier la consommation de fruits entiers, naturellement riches en fibres, qui ralentissent justement l'absorption du sucre. Alors tout compte fait, prendre soin de notre cerveau implique une vigilance constante quant à notre consommation de boissons sucrées, et en restant attentif à notre alimentation et en faisant des choix éclairés, eh bien, on pourrait contribuer activement à maintenir nos capacités cognitives et à réduire le risque de déclin cérébral prématuré, nous dit-on. Donc voilà, cette boisson du quotidien qui sont les jus de fruits pourrait favoriser un Alzheimer précoce. Alors maintenant, c'est plus ce qu'il faut faire, vous voyez, on ne sait plus. On arrive. Bon, c'est pas grave. On ne sait plus, on n'en sait rien. Ça devient quand même assez compliqué tout ça. Allez, on va essayer de voir un petit peu. Comment dire, d'autres petites brèves. Hein. Je suis en train de chercher, je ne retrouve pas ce que je voulais vous présenter, j'en suis désolé. Oui, alors ça, je voulais parler de cette. Comment dire, ce qui a été mis en place par l'Institut Neuropiano, c'est au Japon. Ils ont voulu, une équipe de chercheurs qui a voulu concilier la prévention des blessures et l'entraînement intensif. Et donc, il y a des chercheurs en biomécanique qui ont mis au point un espèce de squelette, un exosquelette, c'est-à-dire un squelette extérieur, qui est destiné aux pianistes de haut niveau. En fait, ils lèvent et abaissent séparément chaque doigt jusqu'à 4 fois par seconde, sans nécessiter le moindre effort. C'est ça qui est intéressant. Et ça a été testé sur plus d'une centaine de professionnels durant 30 minutes. Et il a permis d'accroître un petit peu ce qu'on appelle la vélocité, c'est-à-dire la capacité à pouvoir bouger de façon rapide les doigts. Et ça a permis également une meilleure coordination tactile sur des morceaux qu'il maîtrisait déjà. Donc c'est un progrès qui a été constaté à l'imagerie dans justement au niveau du cerveau des participants. Donc cet exosquelette, c'est on va dire comme un... Ça va entourer un petit peu la main du pianiste et ça va agir à sa place, ce qui va permettre justement une, de reposer un petit peu les doigts quelque part et de faire un petit peu moins d'efforts. C'est ça tout l'intérêt, bien sûr, de cet exosquelette. J'ai y arrivé. Il y a une image que vous pouvez voir, notamment dans Science et Avenir, qui vous montre à quoi ça ressemble. Bon, c'est pas extraordinaire, hein, d'un point de vue de l'image, mais c'est quand même assez intéressant d'un point de vue des applications. Allez, on écoute un dernier titre, hein, et puis après, ça sera l'heure de nous quitter. Déjà, ça passe tellement vite sur l'antenne de l'antenne de graphite. J'ai y arrivé. Il est temps d'aller, pour moi, d'aller me coucher, j'ai l'impression.
Shine so bright.
Staring at the Line, c'était Buvette sur l'antenne de Graphite. Ça, c'est un titre comme groupe. Groupe s'appelle Buvette. Mais ils ont raison, après tout. Allez, dernier petit article, voire deux si on a le temps. Le premier, je trouvais ça intéressant de... j'aime bien toujours tout ce qui est lié à l'espace parce que ça fait, c'est assez fascinant, mais il y a quand même des contraintes techniques qu'il va falloir lever parce qu'il y a des nouvelles missions humaines qui sont envisagées vers la Lune, voire vers Mars, hein, bien sûr. Un point en particulier continue de poser problème, il s'agit des rayonnements cosmiques. Ils sont émis par le Soleil ou même par des astres bien plus lointains. Ils sont en effet hautement nocifs pour tout organisme vivant. Et si la Terre fait qu'à la surface du sol, nous n'avons pas à nous préoccuper de leur existence, hein, parce qu'on est protégé, eh bien, ce bouclier magnétique qui nous protège empêche ces rayonnements de nous atteindre. Les astronautes, eux, ils sont potentiellement lancés dans une longue mission hors de l'orbite terrestre, donc hors de ce bouclier magnétique, et ils auraient bien plus de soucis à se faire. Les rayonnements cosmiques sont en effet des particules chargées très énergétiques et qui se déplacent dans l'espace à des vitesses proches de celles de la lumière. Et donc, du coup, lorsque ces particules entrent en collision avec des molécules, elles peuvent les fractionner. Donc, pour les êtres vivants, eh bien, ces rayonnements peuvent ainsi endommager les cellules et provoquer leur mutation en cellules cancéreuses. Or, les doses subies quotidiennement dans l'espace sont telles qu'un voyage un peu long serait fortement dommageable à la santé des astronautes. Et pour éviter que de telles missions ne se transforment en missions suicides pour les membres de l'équipage, il est donc nécessaire de trouver des moyens de protection. Et c'est ça qui n'est pas simple, parce que ces rayonnements sont très difficiles à stopper. Alors actuellement, les parois des stations en orbite, tout comme les combinaisons des astronautes utilisées lors des sorties dans l'espace, possèdent un bladage. Mais il faut dire que les stations orbitales se situent dans une zone de protection assurée par ce fameux champ magnétique terrestre. Donc on n'est pas nécessairement directement concerné par la problématique. Mais si son efficacité à ces altitudes est moindre, eh bien, si on a décidé d'aller vers Mars, par exemple, là, c'est autre chose parce que les astronautes ne bénéficieraient plus de ce bouclier. Donc, des équipes de chercheurs planchent actuellement sur l'élaboration de protection en testant divers matériaux, de l'aluminium, du plastique polyéthylène, une structure en multicouche. Et ils testent aussi de l'eau. Et c'est ça qui est intéressant dans cet article de Futura Science, c'est qu'il apparaît en effet que l'eau est l'un des meilleurs moyens pour stopper les radiations. C'est pas pour rien en fait que les déchets radioactifs les plus dangereux sont stockés en piscine. Hein, il y a des piscines notamment dans tout ce qui est stockage de déchets radioactifs. Mais alors comment on pourrait utiliser l'eau dans l'espace? Eh bien, il y a des chercheurs du groupe Chimie et Matériaux de l'Université de Ghent en Belgique, qui pourrait avoir trouvé une solution. C'est ce qui est expliqué sur le site de l'Agence spatiale européenne. L'idée, ça serait d'emprisonner de l'eau dans un espèce de polymère super absorbant. C'est ce qu'on appelle un hydrogel. Et l'avantage de ce type de matériau, c'est qu'il peut stocker une grande quantité d'eau et qui n'est cependant pas libre de couler. Un petit peu comme le principe, je vais prendre un exemple totalement horrible, mais le principe des couches culottes, c'est-à-dire que l'eau est captée par cet hydrogel, et puis à partir du moment où elle est figée dans l'hydrogel, elle ne peut plus couler, entre guillemets. Mais l'eau est toujours présente. C'est le même principe ici. Ça en fait un matériau à la fois résistant et souple, ce qui serait totalement idéal dans l'espace. Alors, on n'allait pas dire que on va mettre des couches culottes aux cosmonautes pour aller dans l'espace. Non, c'est pas le principe. C'est pas l'idée, mais le principe est un petit peu le même. L'avantage de ces hydrogels réside dans le fait que ce sont des matériaux propriétés déjà bien connus qui sont très largement utilisés dans notre vie quotidienne. On peut penser notamment aux lentilles de contact souples et ces polymères peuvent aussi être façonnés selon les besoins, notamment par impression 3D. Donc ça serait quand même une impression assez simple et assez efficace, donc un avantage pour une future protection industrielle, bien sûr. Donc on aurait peut-être de l'eau qui permettrait de protéger les astronautes des rayonnements cosmiques. On avait pensé à tout sauf à ça, mes enfants, hein. Utiliser de l'eau, vous voyez, c'est ça un petit peu. La boucle est bouclée, allez, c'est la fin de cette émission. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. Et puis on va continuer comme ça à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. D'ici là, ben vous pouvez continuer à nous écouter sur la bande FM 94.9, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet en direct ou en différé. Je rappelle que vous avez la possibilité de pouvoir récupérer les podcasts. Et sur votre téléphone, si vous avez l'application Radio Player France, eh bien vous pouvez également écouter Graphite tout le temps, où vous soyez, toute la semaine. C'est quand même assez formidable. On se retrouve samedi prochain. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.